Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue au couvent des Carmes. Il fait chaud, il fait beau, on est bien, on est nombreux, nombreuses. À Radio Royan-Vercors, on aime bien faire des plateaux en public. Alors, généralement, on fait ça, il fait 35 degrés, notre matériel souffre un peu de la chaleur. Là, on teste la version hivernale, on va voir ce que ça va donner. Mais je ne doute pas du fait qu'on passe un bon moment ensemble. On est là ce soir dans le cadre de cette résidence pour s'interroger sur les jeunesses en milieu rural. Une résidence qui a été créée par le réseau PASTEC, le réseau des médiathèques de Saint-Marcelin, Vercors, Isère, Communauté. On va avoir le temps de dérouler un peu tout ça. Et j'ai plein d'invités avec moi. Je vais présenter tout le monde et puis après on va écouter une petite interview d'une des invitées qui n'est pas là. Alors j'ai à côté de moi Éléonore, est-ce que tu peux juste nous dire deux mots sur qui tu es ?
Je m'appelle Éléonore Mousset, je suis réalisatrice de films documentaires, jeune réalisatrice, ça fait pas très longtemps que je fais ça. Avant ça j'ai fait une formation d'urbanisme, voilà. Et j'habite Saint-Marcelin depuis 2 ans maintenant, donc voilà.
Une jeune réalisatrice locale. On ne te présente plus, mais si, on va te présenter quand même. Bastien Chrétien.
Bonsoir. Oui, Bastien Chrétien, je suis un habitué de Radio Royan. Je suis comédien metteur en scène. Je travaille pour plusieurs structures sur le Vercors, dont Texte en l'air. Vous pouvez m'entendre tous les étés dans ce micro. Voilà. Et je suis le professeur, pas metteur en scène des élèves que vous allez entendre tout à l'heure.
À côté de toi, il y a un des élèves qui a bien voulu jouer le jeu. Merci Axel, tu peux dire deux mots sur toi ?
Merci à vous. Donc bonsoir, moi c'est Axel et je suis élève à la IMFR de Chatte en 3e.
En filière plutôt, pas agricole il me semble.
Non, je suis pas en agricole, je suis en service restauration.
Eh ben, on va avoir l'occasion de parler un peu de tout ça. Merci à toi d'être là, c'est super. Et à côté de toi, une de tes profs.
Bonsoir, donc moi je m'appelle Anaïs et je suis enseignante donc de français à la MFR de Chatte depuis 10 ans.
Eh ben, bonsoir Anaïs. Et on salue aussi, parce qu'un plateau radio, il faut toujours de la technique. Il y a ma collègue Charlène, ici à la technique, avec Loën qui est justement en plein dans le sujet, qui est dans son stage de 3e à Radio Royan cette semaine, qui apprend à animer, enfin à plutôt faire la technique sur un plateau radio ce soir. Et merci aussi à Pauline pour le relais technique. On va écouter, alors il aurait dû y avoir Aurélie Olivier, qui est l'autrice en résidence sur ce projet, qui a eu un souci personnel et qui du coup n'est pas là sur le plateau. Ça va bien se passer quand même. Et il y a aussi donc Laura Tamizé, qui est coordinatrice du réseau PASTEC et que j'avais interviewée pour présenter ce projet. Et donc elle n'est pas là, mais on a déjà sa voix qui nous introduit un peu cette résidence.
Alors les résidences d'auteurs, c'est quelque chose qu'on organise une fois par an avec des publics cibles à chaque fois. C'est un contrat qu'on a avec l'État pour pouvoir organiser ces résidences qui sont financées par l'État et aussi avec les élus qui ont choisi des publics prioritaires. Et donc la jeunesse faisait vraiment partie des publics prioritaires. Et donc quand on a réfléchi à cette résidence sur les jeunes en milieu rural, c'était au moment des élections législatives et on voyait dans les médias énormément de ce que nous on a appelé après des stéréotypes. En ville, ça vote à gauche, en milieu rural, ça vote à droite. Et donc, on s'est dit qu'on allait aussi orienter cette résidence pour essayer de mieux comprendre qui sont ces jeunes et d'associer leurs paroles, donc essayer de trouver des dispositifs qui leur donnent la parole et qui leur permettent de s'exprimer, à des paroles, on va dire, peut-être soit plus artistiques ou plus scientifiques, mais en tout cas de personnes qui ont étudié les jeunesses en milieu rural ou qui ont voulu les représenter dans des œuvres artistiques. Donc c'est pour ça qu'il y avait la résidence d'Aurélie pour les accompagner, ces jeunes, ces groupes de jeunes, à exprimer des choses, et une restitution de tous les ateliers qu'elle a fait, où chaque soir est associé à une table ronde, une projection de film, à des échanges avec des personnes qui vont travailler sur ce sujet-là.
Ouais, quand on pense à
ce sujet-là. On pense notamment à Benoît Coquart et ce qui reste. Alors là, c'est plutôt le nord-est de la France, mais est-ce qu'il y a peut-être des choses qui t'ont parlé dans ce travail-là, qui ont fait écho aussi à ça? Parce que c'est vrai que c'est une approche plus sociologique, et là, vous aviez envie de quelque chose plus artistique avec ça?
Non, on est évidemment parti du travail de Benoît Coquart, de Yael Mselem-Mingui aussi, qui a écrit un livre qui s'appelle Les filles du coin, en écho à un autre livre de Nicolas Réani qui est sorti il y a beaucoup plus longtemps, Les gars du coin. On partait du constat que quand même il y avait des études qui existaient. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des études qui existent. Et donc il fallait se nourrir de ça. Donc on les a invités, ces personnes, mais ils n'ont pas pu venir. Donc il y aura d'autres sociologues qui seront présents, notamment le premier soir des restitutions. Donc si ce regard sociologique, il était important pour nous, parce qu'effectivement il y a peu d'études sur les jeunesses en milieu rural, mais il y en a et elles sont poussées et qualitatives. Et ça aurait été dommage de ne pas s'en servir d'une manière ou d'une autre.
Voilà pour cette petite introduction de Laura, avec qui vous aurez l'occasion d'échanger, puisqu'elle va arriver tout à l'heure avec Aurélie, justement. Et donc, là, on est dans cette soirée au couvent des Carmes, mais il y a eu déjà des choses cette semaine autour de la résidence, au Grand Séchoir, à la médiathèque de Saint-Marcellin, autour des productions des jeunes. Et moi, j'avais envie de me tourner peut-être vers toi, d'abord pour commencer, Anaïs, toi, en tant qu'enseignante, donc toi, tu es enseignante de français, tu me disais que ce n'était pas la première fois que vous faisiez ce type de projet au sein de la MFR, et j'avais envie un peu de te demander, pour toi, qu'est-ce que ça apporte de monter des projets plutôt artistiques ou culturels, en général, et peut-être celui-là en particulier.
Alors du coup, nous, c'est vrai que dès qu'il y a des projets et qu'on est sollicité, on s'y penche dessus. On a déjà travaillé avec Bastien plusieurs fois, avec Éléonore aussi, pour différentes classes également. Et du coup, les jeunes, c'est une autre façon de travailler, c'est notre façon d'apprendre, c'est notre façon pour eux de se connaître et d'évoluer aussi, de prendre confiance en eux parce que... on a beaucoup de jeunes qui arrivent à la MFR avec un manque de confiance en eux, une perte de confiance en eux par leur parcours scolaire et les difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur parcours scolaire. Et du coup, tout ce qui peut leur donner confiance, on est partant.
Vous y allez quoi?
C'est ça.
Donc vous avez déjà eu des ateliers théâtre, des choses comme ça?
Oui.
Et on va donner la parole à toi, Axel, puisque tu représentes les jeunes dont on parle, digne représentant de 51 élèves qui ont bénéficié de ces...
Très grosse pression,
hein, tu représentes 50 personnes à toi tout seul. Est-ce que tu te reconnais dans ce que dit ton enseignante sur la question de la confiance en toi, dans qu'est-ce que ce type de projet te permet?
C'est sûr qu'en fait, en étant à l'IMFR, je me sens beaucoup mieux que dans mon ancien collège. En fait, on sent que les enseignants sont là pour nous et que ils font attention à nous, même le soir à l'internat.
Alors oui, on peut en parler. On s'en parlait juste avant, Anaïs. C'est pas la même chose. C'est pas un enseignement général. À l'IMFR, il y a 17 semaines de cours et 20 semaines en stage. Qu'est-ce que ça crée tout ça? Ça fait que les élèves dorment sur place? Comment ça s'organise?
Oui, en 4e, 3e, tous nos jeunes sont à l'internat. C'est une volonté de notre établissement et de notre conseil d'administration, puisqu'on est une association. Et du coup, ils sont donc dans le milieu professionnel. Et le milieu professionnel fait qu'ils grandissent, ils évoluent, ils reprennent confiance en eux et en l'école et en leurs capacités. Et du coup, les 17 semaines d'école sont plus faciles, on va dire, parce que ils ont travaillé en entreprise, se sont confrontés au monde professionnel et du coup retrouvent un peu une appétence aussi pour le fait d'apprendre.
Et toi, tu disais aussi que ça crée aussi une autre relation entre les enseignants et les élèves.
Ah bah oui, complètement, parce que en fait nous, donc on n'est pas enseignants, en fait on est formateurs. C'est notre...
Là est la nuance peut-être.
C'est ça. Et du coup, on est salarié déjà de l'entreprise, de la MFR, de l'association, même c'est pas une entreprise, mais de l'association.
Vous êtes salarié associatif.
C'est ça. Et du coup, on est aussi avec les jeunes. Alors on a nos heures de cours, mais au-delà de ça, on est aussi présent le matin au réveil, chacun à notre tour, les formateurs, et puis le soir aussi en veillée jusqu'à 22 heures. Et du coup, on est aussi les confidents des jeunes au-delà du rôle d'enseignant.
Donc oui, ça crée une relation un peu comme des éducateurs, éducatrices ou des assistants d'éducation, quelque chose de peut-être plus intime.
C'est ça. Et quand on les recroise des années plus tard et qu'on discute avec eux de leurs projets, de ce qu'ils ont réalisé, ils sont toujours contents de nous voir et nous aussi.
Et je me demandais, est-ce que Axel ou Anaïs, il y a des stéréotypes qui existent sur les jeunes qui vont à la MFR? Est-ce que, par exemple, les autres collégiens, collégiennes que vous pouvez croiser à Saint-Marcelin ou ailleurs disent des choses autour des élèves qui vont en MFR?
C'est vrai que moi, à la MFR, à la base, j'en entendais parler pas que du bien. Mais finalement, ça fait plus d'un an que je suis là-bas et c'est que du bonheur en soi. C'est vraiment, ça change de l'école classique où on est là la journée, puis après le soir on rentre chez nous. Et on n'a pas forcément l'envie de faire nos devoirs, tout ça. En étant à la MFR, vu qu'on a notre étude à une heure précise, on sait que c'est tous les soirs comme ça, donc on va faire obligatoirement nos devoirs. Et finalement, c'est pas si mal que ça.
Toi, tu dis, tu renverses le stéréotype, c'est plutôt positif pour toi.
C'est
quoi.
Ça.
C'est quoi ces stéréotypes qui existent, Bastien?
Oui, ouais, j'ai déjà entendu parler qu'effectivement... les jeunes qui sont à la MFR, l'enseignement qu'on y fait, ils sont un peu reclus là, voilà.
Comme les lycées technologiques, voilà, ou les lycées professionnels.
On les entend pas en fait. On parle pour eux. Aussi, moi, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Oui. Et je trouve que vraiment, il y a. Faut s'y coller parce qu'ils demandent. Une attention particulière et une énergie forte. Vraiment, il faut y aller. Ils sont vraiment attachants et il y a vraiment quelque chose qui se crée assez vite. Parce qu'au début, effectivement, la curiosité qu'on apporte autre chose que leur stage ou ce qu'ils apprennent à l'école, c'est sûr que c'est... nous, on arrive comme des ovnis un peu. Moi, quand j'arrive et je fais des exercices, des trucs, ils me regardent avec des grands yeux. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Ils rentrent très vite dans l'univers qu'on leur propose et vraiment, c'est des grands enfants, quoi. Après, il y a vraiment un truc où on se marre vraiment, des grandes barres de rire, quoi.
Comme nous tous, finalement.
Oui, oui.
On va rentrer un peu dans ce projet qui a eu lieu, parce qu'on n'arrête pas de dire le projet, mais peut-être, vous, public, vous ne savez pas de quoi on parle. C'est un projet donc, qui est autour de ce livre d'Aurélie Olivier qui s'appelle « Mon corps de ferme », donc sur la question de la ruralité et d'être jeune, adolescent en milieu rural. Il y a eu donc, des groupes, et il y a eu, de ce que racontait Laura, au moins 3 heures d'écriture, avec Aurélie, 3 heures de travail à l'oral, ça c'était peut-être plutôt avec toi, et peut-être 3 heures d'enregistrement, grosso modo.
Grosso modo, ouais. Oui.
Et il y a eu 4 groupes différents, et une des volontés de la constitution des groupes qui a été travaillée entre Aurélie et vous, c'était qu'il y ait des groupes en non-mixité, donc que les garçons et les filles soient séparés dans des groupes. Donc il y a eu un groupe de filles et 3 groupes de garçons. Est-ce qu'on peut en parler un peu de ça?
J'y vais. Ouais, allez, je commence. On avait cette envie-là parce que de l'expérience qu'on avait du travail à la MFR, de ce qu'on avait pu déjà voir, c'est que les filles rentraient dans une forme de timidité par rapport aux garçons puisqu'elles sont que 3 ou 4 par classe. Et donc, il y avait un poids un peu de la jante masculine sur leurs épaules. Elles n'osaient pas y aller, elles n'osaient pas s'exprimer ou en tout cas, c'était compliqué pour elles. Et du coup, on avait envie qu'elles se fassent confiance entre elles et qu'on y aille avec les filles pour vraiment qu'il n'y ait pas les garçons qui viennent... parce qu'il y a quand même, je peux me gourer, mais il y a quand même un peu de misogynité, un côté misogyne à des moments donnés dans les classes ou des réflexions qui peuvent y avoir. Et ça casse, et nous, ça nous rend fou des moments donnés. Donc du coup, on n'avait pas besoin de ça, et on avait besoin de travailler, parce que ce que vous allez entendre tout à l'heure, il y a une forme d'intimité de ce qu'elles racontent. Elles avaient besoin aussi de se lâcher, de pouvoir dire des choses qu'elles ont écrites liées à de l'intime. Et ça, c'était important pour nous qu'on se retrouve avec les filles dans ce petit écrin-là. Voilà.
Léonore, tu as envie de compléter ?
Je complète, je suis d'accord avec ça. Et en même temps, moi, j'ai eu une expérience un petit peu différente parce que l'année dernière, j'ai eu la chance d'intervenir à la MFR pour la réalisation d'un film avec des premières, donc un peu plus âgées. Et au contraire, donc il y avait 6 filles pour une classe de, 30 élèves, je pense.
26,
oui. Je les ai pas senties timides du tout. Au contraire, elles étaient hyper courageuses et hyper motrices dans le projet. En revanche, elles ne pouvaient pas s'exprimer sans qu'il y ait derrière un débat et des remarques, etc. Et pourtant, elles n'étaient pas dans de la timidité. Au contraire, elles étaient très combattantes.
Mais elles avaient 17 ans, si je peux
dire. L'idée, là, c'était aussi de pouvoir aller plus loin avec elles sans forcément rentrer dans une forme un peu de conflictualité entre tout le monde.
Et puis, il me semble que c'est aussi des questions qui tiennent à cœur à Aurélie dans son travail sur la ruralité. Il y a la question du corps, il y a la question de l'intimité. D'ailleurs, ça s'appelle « Mon corps de ferme », c'est pas pour rien. Mmh. Et il me semble que c'est aussi quelque chose qui vient d'elle, de cet objectif de travailler en mixité choisie ou en non-mixité, comme on dit.
Oui. La femme aussi, enfin, c'est la femme en ruralité aussi, c'est dans son livre, c'est vraiment très, très important. Et oui, c'était un vrai choix. Et je pense qu'on a eu raison de le faire parce que de ce qu'on a pu sortir de ce travail-là, entre elles, elles n'étaient pas du tout dans le jugement. Il y avait justement quelque chose d'équipe, de groupe, d'équipe de rugby, on y va ensemble, qui était chouette, et on a tout de suite dit, il faut qu'on les protège, et qu'on protège leurs textes, et si elles ont envie de se lâcher, qu'elles puissent le faire, quoi. Et qu'on avait un peu peur qu'effectivement, avec les garçons, il y ait cette peur de jugement permanent qu'il pouvait y avoir. Enfin, je peux me tromper, hein, je ne sais pas
si j'allais
vous,
dire,
vous en pensez, Anaïs ou Axel.
Ouais, qu'est-ce que vous, ouais. Comment vous vivez ça au quotidien à la MFR? Est-ce que toi, Axel, tu as le sentiment que... comment ça se passe entre les garçons et les filles? Est-ce que... Tu dirais que les garçons sont un peu chahuteurs avec les filles, peut-être ou...
Oui, totalement. Il y a quand même un petit peu de on va dire rigolo. C'est gentil, mais des fois, ça peut quand même être un peu lourd.
Tu comprends pourquoi elles peuvent trouver ça lourd aussi.
Tout à fait.
Anaïs, qu'est-ce que tu observes, toi, sur cette question?
C'est vrai que les filles à la MFR, on a des filières après la troisième qui sont plutôt masculines. Donc, du coup, on attire aussi des jeunes... plutôt des garçons, et du coup c'est vrai que les filles ne sont pas très nombreuses, mais il y a aussi l'adolescence qui fait que on est à un âge où les relations elles sont pas forcément faciles, et puis parler de soi, que ce soit pour des garçons ou des filles, à cet âge-là c'est pas forcément facile non plus, donc peut-être que ces groupes ont permis aux garçons de s'exprimer et aux filles de s'exprimer, moi je le vois comme ça.
Du coup, Laura, quand je l'ai interviewée, elle me racontait que Aurélie passait par des choses autour. Donc, elle écrit de la poésie, et les premiers temps d'écriture ont été d'abord autour de consignes très simples sur le sens, sur les sens. Je vois, j'entends, mais aussi il y a d'autres choses. Enfin, des choses. Est-ce que Axel, tu te rappelles un peu comment vous avez travaillé avec Aurélie sur l'écriture?
Oui, je m'en rappelle.
Tu veux bien nous raconter un peu?
C'est vrai qu'à la base, on commençait vraiment par des je vois, j'entends. Je sens, et on devait créer 5 phrases sur n'importe quel thème, mais avec justement, par exemple, j'entends le bruit de la mer ou des choses comme ça.
Et c'était comment d'écrire ça pour toi et puis pour tes camarades?
C'était libre, on écrivait ce qu'on voulait, donc ce qui nous passait par la pensée, on l'écrivait.
Autour de ce qu'on ressent, ce qu'on entend, est-ce que c'est des choses dont tu avais l'habitude?
Pas du tout.
C'est pas facile de se concentrer sur ce qu'on sent et de réussir à l'écrire.
Oui.
Et puis finalement, vous avez réussi à écrire de la poésie.
Oui.
Ah ouais, complètement. Vous allez l'entendre tout à l'heure. Hein. Je fais que teaser ce qu'on va entendre. Oui. Oui. Ils ont vraiment écrit de la poésie. C'est vraiment très intéressant.
Et dans le programme de français, on en parlait tout à l'heure, il est un peu différent du. Enfin, c'est le même programme qu'en général.
Oui, c'est le même, oui. Simplement, il est un peu allégé puisqu'ils ont 17 semaines de présence à la MFR, donc la moitié du temps par rapport à d'autres élèves. Mais c'est le même, et effectivement, ce projet-là rentrait complètement dans le programme de 3e, puisqu'il y a une partie sur l'écriture de soi. Et donc, du coup, on a commencé à aborder avant que la résidence, et qu'Aurélie arrive. le thème de l'écriture de soi en travaillant sur des textes, etc. Et ensuite, ben, ils ont écrit.
Et alors, ce que me racontait Laura, c'est qu'il y avait la volonté que ce soit un poème collectif. Et ça, déjà, on retrouve un peu l'esprit peut-être qu'il y a à la MFR de faire groupe, de vivre ensemble. Et du coup, c'était des poèmes d'abord d'aller chercher dans l'individuel, mais après de faire ensemble. Comment ça a été ça, Axel, de réussir à écrire, mais collectivement ?
Bah, en soi, on a vraiment écrit chacun notre pensée. Et après, ça a été retravaillé en fonction de ce que chacun pensait, si ça pouvait bien rentrer, par exemple, dans le poème, ou si une autre phrase allait bien avec une phrase, par exemple, d'un autre élève. Et finalement, ça a créé un poème qui est franchement pas mal, je trouve.
Et pour ajouter quelque chose à ça, c'est que nous, on découvrait leur texte une fois terminé. On n'a pas assisté aux ateliers d'écriture avec Aurélie. Et on a vraiment senti que chaque groupe avait une personnalité collective. Quoi. Oui. Chaque texte était différent et un univers différent. Donc c'était agréable pour nous parce que ça a renouvelé notre envie de créer. Quoi.
On l'a découvert une heure avant. Quoi.
Voilà.
Donc il fallait qu'on pense avec Eleonore ce qu'on allait faire avec l'univers qu'on nous proposait une heure avant. Ouais.
Et alors, on va y venir. Et donc toi, tu rentrais en scène d'abord peut-être l'oral ou ensemble, d'accord ? Et qu'est-ce que vous proposiez aux jeunes ? Comment vous proposiez de passer de ce texte écrit, de fraîchement écrit, ce poème collectif, et de l'amener vers l'oralité ? Comment vous êtes pris ?
Mais avant, tu les as eu quand même une heure et demie chaque groupe en initiation autour du son. Tu peux en parler ?
Oui. En fait, c'était un format très intensif. En 3 jours, ils n'ont pas arrêté de passer d'un atelier à l'autre. Donc ça aussi, je pense que c'est super intéressant pour eux de connaître cette intensité créative, parce que c'est quelque chose qu'en tant qu'artiste, on peut connaître dans le cadre de résidence, etc. Et je pense que c'était pour nous agréable, mais pour eux aussi voilà, d'être dedans à fond pendant 3 jours. Et donc, ils ont eu effectivement un atelier d'initiation à la captation-création sonore, où je leur ai fait écouter des choses qui sortent de leurs habitudes et où on a fait des prises de son, de bruitage, etc. Donc c'était plus voilà, une découverte, initiation. Et après, donc ils sont passés en atelier d'écriture avec Aurélie et ensuite avec Bastien et moi en mise en voix et enregistrement. Quoi.
Ouais. On s'est dit avec Eleonore aussi que c'était chouette de vous faire bosser sur le bruitage au début pour vraiment les amuser avec un micro. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un micro ? Qu'est-ce qui est intéressant à faire ? Alors, peut-être qu'il n'y a que nous qui c'est intéressant de faire des bruitages, mais on s'est dit que le bruitage était hyper intéressant. On pouvait faire plein de choses avec notre bouche, avec les mains, avec plein de choses, avec une canette, avec plein de ce qu'on peut faire avec un micro de bruitage. Donc, du coup, on s'est dit, bon, ça va nous servir aussi pour alimenter le texte poétique, pour avoir du bruitage, des petites choses autour. Voilà. Et puis après, donc, du coup, je les ai 3 heures. Ouais, j'ai l'impression que je les ai eu plus, peut-être qu'ils m'ont fatigué, mais j'ai 4 heures.
4 heures, oui.
Oui, c'est 4 heures.
Axel, on s'en rappelle bien, c'était 4 heures avec toi.
Mon corps s'en rappelle. Oui, dans 4 heures, c'est complètement collectif. Hein, il n'y en a pas un qui est laissé sur le carreau. Tout est fait ensemble, de manière collective. Et du coup, ça part par l'échauffement. Où je leur fais des choses qu'ils n'ont jamais vues de leur vie. Enfin,
Axel, toi, tu te rappelles d'un petit jeu de théâtre ou quelque chose tu peux nous raconter hein ? Qu'est-ce qui vous a fait faire ?
On a commencé par des mots un petit peu bizarres comme bda, de, bdi. Je posais quand même des questions.
C'est de l'articulation. Là.
Quoi, ça va nous servir ? Mais finalement, ça nous a beaucoup servi parce qu'on arrivait beaucoup mieux à parler. On faisait attention aux phrases, on arrivait vraiment bien à prononcer les mots et tout ça, et donc finalement ça sert vraiment.
Ouais, je sais pas si avec toi on a fait, on a fait du lancer de mots aussi.
Oui.
On a fait du lancer de mots, trouver un mot en rapport avec l'autre sur un mouvement de bras en l'espace d'une seconde, de pas réfléchir et juste d'avoir, sur un rythme, de dissocier la tête et le corps. Et puis je les ai fait causer aussi, on a beaucoup causé aussi sur vos stages, c'est important que je les entende. Parce que tu disais que bon, tu étais quand même porte-parole de 51 élèves, mais ils sont pas tous fans de la MFR d'apprendre. Ils préfèrent travailler. Enfin, je suis pas gourée, mais
non, c'est ça.
Ils préfèrent la partie stage que la partie.
Il y en a quand même beaucoup qui préfèrent être en entreprise, voilà. Voilà. Donc, du coup, le fait de raconter leur univers d'entreprise est hyper important, parce que je sais qu'ils y tiennent beaucoup. Ils apprennent un métier, enfin, en tout cas, un domaine.
Ils le découvrent et ça leur permet de choisir une voie. Oui.
Complètement. Et moi, je me montre, et c'est vraiment réel, hyper curieux, parce que j'y connais rien. Quand on me dit qu'il est, que, je sais pas, qui est garagiste à Yamaha, je sais pas ce qu'il fait.
Pas de représentation.
Mais non. Moi, je vais réparer ma voiture. Mais ça m'intéresse quand il y en a un qui me dit qu'il est dans l'exploitation agricole sur les vaches à viande. Ça m'intéresse. Donc, du coup, je m'intéresse à eux et aussi pour qu'il y ait ce truc de se dire, moi, je m'ouvre à vous. Donc, l'idée, moi, je fais un pas, faites un pas vers moi. Il y a toujours ce truc-là de, je vais vous apprendre des trucs que vraiment. Vous ne soupçonnez pas. Donc voilà, ça se passe comme ça au début.
Tu veux compléter, toi, Hélène, sur ces ateliers ou sur ton vécu?
Peut-être juste préciser quand même que c'est les jeunes qui ont fait la technique, c'est-à-dire c'est eux-mêmes qui se sont enregistrés les uns les autres.
Ouais.
Donc c'est pas rien. Ça a permis aussi à chacun de trouver sa place. Tout le monde n'était pas hyper à l'aise avec l'idée de prendre la parole devant tout le monde, etc. Et voilà, nous, l'idée, c'était de les encourager à le faire, mais de ne pas forcer non plus, et que ceux qui avaient envie de plutôt être du côté de la technique puissent s'éclater là-dedans. Et du coup, je crois que ça a été le cas. On a toujours eu une petite équipe motivée pour ça et qui s'est super bien débrouillée. J'ai pas eu trop de problèmes au montage. Donc,
oui, parce que c'était drôle de les voir, que les techniciens sentaient, je regarde Charlène, que les techniciens avaient le pouvoir dans le action, dans le on y va, dans le top, d'avoir ce pouvoir là face à celui qui enregistrait au micro, et c'était hyper important pour eux, au casque, avec le micro, où ils avaient vraiment une petite formation et s'auto-enregistrer, quoi.
Un peu comme Loen ce soir, qui voilà, une semaine de stage à la radio, et puis c'est lui qui gère la technique du plateau. C'est voilà. Comme ça. C'est aussi notre travail d'éducation populaire qui rentre dans les établissements scolaires, qui permet des choses. Bon, maintenant qu'on a fait une demi-heure de teasing sur ce podcast qu'ont réalisé les jeunes, on va peut-être l'écouter quand même, parce que quand même, ça donne envie.
Je ne sais pas si c'est un podcast.
Ce n'est pas un podcast. Alors, on va devoir rentrer dans les définitions de une création sonore,
oui.
Ça te va?
Oui, c'est une création sonore.
Une création sonore, est-ce qu'elle a un titre?
Bah non, tiens, on s'en causait.
Axel, un titre comme ça, de but en blanc?
Ouais, c'est dur.
C'est compliqué.
Bon, ça s'appelle Trois petits points.
Il y a, mais aussi.
Oui, il y avait aussi. Mais
il y avait aussi.
Après, ouais, on pourrait échanger avec le public si vous avez des idées de titres.
Carrément.
Parce qu'on a, ouais, pour l'instant, ça n'a pas de titre.
C'est ça, les créations fraîchement créées, peut-être, n'ont pas encore de titre.
Et c'est hyper frais, dans le sens qu'à midi, il y avait encore des modifications. Donc, c'est
inédit.
Voilà.
On va écouter ça, et puis je vous proposerai que dans la deuxième partie de notre plateau, on rentre aussi sur vraiment la spécificité de la question de grandir en milieu rural, en ruralité, le fond finalement du sujet. Mais d'abord, on écoute « Il y avait » ou « Trois petits points » ou le titre qu'on trouvera collectivement ce soir.
Attention, 3,
4.
Attends deux secondes. Attends. J'étais pas prêt.
Il fait un arrêt cardiaque.
Non, je me préparais.
Il y a des insultes quotidiennes, mais aussi de l'amour dans l'air.
Aussi de l'amour dans l'air.
Il y a des rires hyper faciles,
mais aussi des pleurs difficiles.
Attendez, s'il vous plaît.
Attends.
Mais en fait, j'ai... Ouais.
Comme
c'est gênant.
Mais non,
c'est incroyable.
Il y a... T'es trop petit.
T'es trop drôle.
T'es trop maigre.
Mais aussi des...
T'es mon sang.
Il y a des difficultés à apprendre.
Mais aussi des testicroustilles de ma sœur.
Il y a des chaises qui grincent, mais aussi des moteurs qui rugissent.
Il y a des amis, mais aussi des ennemis.
Il y a des grandes gueules, mais aussi des paroles sincères.
Il y a la vie difficile en cours.
Mais aussi de l'amour.
Il y a de la tromperie.
Mais aussi de l'amour.
Il y a du vol de stylos 4 couleurs, mais aussi des canettes offertes à la machine.
Ça biche.
Il y a des clients exigeants, mais aussi des... Tu te sens frais?
Un peu comme vache qui pisse au soleil.
De Dieu.
Turbine.
Wapow.
Vas-y, français.
Champagne. Ça biche.
Ça va, les filles?
Tu te sens frais?
Il y a des...
Parle français.
Mais aussi des...
J'en sais rien.
Il y a des personnes qui n'osent pas lire, mais aussi des gens qui se sentent prêts.
Il y a mon orientation stressante, mais aussi un grand ciel bleu.
Il y a des pourquoi je suis né, mais aussi des avions en papier.
Il y a des je comprends rien, mais aussi des je ressens tout.
Il y a la peur qu'on te tourne le dos, mais aussi le plaisir de rouler en moto.
Bah, moi, je m'appelle Dylan, et là, je vais faire un stage en mécanique auto.
Ok. Voilà. T'es pas encore en stage ?
Ouais, je suis pas encore en stage. Je vais commencer la semaine prochaine.
Ok. T'étais en quoi avant ?
J'étais en mécanique moto à Yamaha.
Ok.
À Grenoble.
Alors, plus... je me dirigerai plus vers de la mixologie, mais... ça change, parce que souvent, service, c'est amener un plat à un client, et puis voilà, c'est tout.
Ouais.
Là, c'est, on prépare un cocktail, donc il y a plusieurs choses à retenir,
ouais.
La confection, tout ça.
Ok, il y a de la création. Quoi.
C'est ça.
Ouais.
Il y a la fatigue,
mais aussi les potes.
Il y a la haine des jaloux,
mais aussi l'amour des proches.
Il y a la haine quand je perds à Fortnite, mais aussi la joie quand c'est l'heure de manger.
Il y a la peur de casser le tracteur, mais aussi l'entretien des chaudières. Il y a la haine de tomber en panne, mais aussi le bruit du moteur.
Moi, c'est grande culture, ce qui est céréales.
Ok. Et qu'est-ce qui te plaît ?
De l'agronomie et un peu d'élevage, mais vache à viande.
T'as envie de faire ça ?
Oui.
Ok. Et quoi, ton propre exploitation ou...
Pas sûr.
Pas sûr. Pourquoi ?
Parce que c'est compliqué de se lancer. Et on sait jamais ce qui peut arriver, donc...
Il y a la vie est dure.
Mais aussi la fierté de produire la nourriture.
Il y a mon corps qui veut dormir, mais aussi le soleil sur ma peau.
Il y a trop d'insultes.
Mais aussi des merci.
Il y a la tristesse de retourner à la MFR.
Mais aussi la possibilité de voir ses frères.
Il y a la journée n'est pas terminée, mais aussi ce n'est que le début. Il y a la semaine qui est longue, mais aussi les vacances qui arrivent.
Il y a les malaises des non-dits.
Mais aussi les sourires des gars.
Il y a la peur des livres.
Mais aussi la joie d'être dehors.
Il y a les gens dégoûtés par la viande, mais aussi l'entrecôte entre amis.
Il y a les mélancoliques alcooliques.
Mais aussi l'heure de l'apéro humoristique.
Il y a la peur quand ma mère m'appelle, mais aussi l'amour de mon neveu.
On voit.
On voit.
On entend.
On entend.
On ressent.
On ressent.
On gamberge.
On gamberge. Da. De. Di. Donc. Du.
Il y a des grands pieds.
Mais aussi des chaussettes.
Ok. Maintenant avec le cas, c'est kda.
Kda.
Ok. 3, 4.
Kda. De. Di. Donc. Du.
Okay. Il y a des sourires joyeux, mais aussi des pleurs de tristesse.
Chaussures.
Semelles. Tissu. Chaussettes.
Chaussures. Là, c'est... Alors, on n'a pas le droit de dire le même mot. On n'a pas le droit de dire le même mot. On reprend Aléna. On reprend Aléna et tu dis un mot ce que tu veux. 3, 4.
Il y a des inquiétudes en boucle.
Mais aussi des poèmes d'amour.
Il y a du sans plus.
Mais aussi la liberté.
Il y a du silence compact.
Mais aussi du tiramisu.
Il y a des regards qui sont durs à oublier.
Mais aussi les poules et les moutons de ma sœur.
Il y a de la retenue qui immobilise.
On le sent, ça. Tu vois, ce truc de... comme je suis timide, ça me fige. Comme il y a une forme de gênance, je suis immobilisé. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a cette retenue qui immobilise.
Mais aussi le vent qui fait bouger les feuilles.
Il y a le besoin de vivre aux côtés des vaches.
Il y a besoin de vivre aux côtés des vaches.
Mais aussi la pose des fossiles.
Qui se sent de le dire ça ? Allez. Et toi, vous vraiment qu'on sente ce besoin, ce bonheur de...
L'amour.
Ouais.
L'amour des vaches. Oui. Des meufs.
Et qui est-ce qui se sent de faire ? Moi, j'aimerais bien le jouer, mais aussi la pose des fossiles. De le jouer un peu plus en mode... Non, mais il n'y a pas que ça, quoi.
Ah, waouh.
Tu vois, toutes les deux, là. Essayez le truc, elle, il y a besoin de vivre aux côtés des vaches et toutes les deux.
Mais aussi la pose des fossiles.
Il y a mon ventre qui a faim.
Mais aussi le pain au chocolat.
On se disait, il n'y a pas d'idée au départ, mais à la fin, tellement de personnes différentes autour de moi chaque jour.
Il y a de la déception.
Mais aussi la possibilité de réussir.
y a la 50e en panne.
Mais aussi la crosse qui marche.
Il y a les mauvaises notes.
Mais aussi les bonnes fins de semestre.
Il y a le Serrano qui est très salé.
Mais aussi les pâtisseries.
Il y a 18 cas cramés.
Mais aussi l'odeur du barbecue allumé.
Il y a la déception de la famille.
Mais aussi la Doro Party à Châtelet.
Mais non.
Qu'est-ce que c'est ?
Impossible.
Il n'y a pas souvent mon père, mais aussi le feu qui crépite.
Il y a les longs mercredis de la semaine, mais aussi mercredi Adams le week-end.
Il y a les profs qui nous prennent le téléphone, mais aussi Sophie du 38 en i devant le vélodrome.
Mais c'est ma mamie.
Hein ?
Quoi ?
Il y a les parents qui déconnent, mais aussi les bonbons et les capricènes.
Il y a le réveil le matin, mais aussi la tête à Damien.
Et Damien, marre-toi, faut tes sourires. La tête à Damien, tu te marres. D'accord ?
Il y a le réveil,
le matin,
mais aussi la tête à Damien.
Le matin,
mais aussi la tête à Damien.
Il y a le carnet de correspondance.
Mais aussi les vacances.
On se disait, il n'y a pas d'idée au départ, mais à la fin, tellement de personnes différentes autour de moi chaque jour.
Je laisse un petit temps pour qu'on... Ben oui, on applaudit quand même cette création sonore collective des quatre groupes que vous avez eus. Donc ça s'est enchaîné comme ça, ça a fait une seule production. On se disait juste avant, ça fait un making of, making in. C'était ça la volonté, en fait, qu'on entend un peu à la fois la production et à la fois les coulisses.
Ouais, carrément, ouais. Oui, ben, c'était pas forcément d'ailleurs pensé à l'avance, non. Mais sur le moment, moi je me suis dit bon, c'est trop bien ce qui se passe aussi là ensemble et ce serait bien d'en garder une trace. Donc assez vite, on a sorti le micro pendant les entraînements, etc. Et puis à l'écoute, ça s'est confirmé que c'était important de vous donner aussi accès aux coulisses de ce qui s'est passé pendant ces ateliers.
Oui, il y a 51 individus personnalisés là, donc du coup il faut mettre tout ça en scène, c'est pas évident que tout le monde ait un peu la parole, essaye, se trompe, voilà. Donc du coup c'est un exercice qui peut être un peu périlleux, mais c'est vrai qu'on, j'ai l'impression qu'on ressent un peu l'effervescence, le processus de création en tout cas. Donc ça nous plaît. Et puis oui, je pense qu'il faut le dire parce que on est dans un couvent. Alors le son peut-être résonne un peu. On peut retrouver cet audio sur le site de Radio Royan, me semble-t-il.
C'est ce qu'on va faire, oui. Ouais, vu que le plateau sera en entier sur le site de voilà. La radio, il y aura effectivement le podcast.
Voilà. Parce qu'au casque, le mec qui est chiant. Au casque, on entend beaucoup plus de petites choses, de choses comme ça.
Charlène et Loen. Axel, si on rentre dans le vif du sujet, moi j'ai noté des choses là en écoutant. J'ai noté amour, haine, ressenti, déception, réussite. Je vais pas te questionner sur tout ça, t'inquiète pas, devant tout le monde. Je me demandais dans le fait de vivre à la campagne, toi t'habites à Saint-Hilaire.
Exact.
Et qu'est-ce qui te plaît? Et qu'est-ce qui est plus compliqué pour toi ?
Sur Saint-Hilaire de...
Sur le fait de vivre dans un petit village, quoi.
Ce qui est compliqué, justement, quand on vit dans un petit village, c'est qu'il y a très peu de monde, surtout très peu de personnes de mon âge. Donc, souvent, je reste chez moi. Mais après, ça arrive de trouver justement des amis, et, comme par exemple à la gare, parce qu'à Saint-Hilaire, il y a une gare. Et il y a beaucoup plus de personnes de mon âge, justement.
Et du coup, c'est quoi les activités ? Qu'est-ce que tu fais quand on... Qu'est-ce qu'on fait quand on a 15 ans et qu'on habite à Saint-Hilaire ?
Eh bien, on sort avec ses amis.
À la gare ?
À la gare.
Donc vous traînez dehors, plutôt ?
Oui, surtout dehors. C'est vrai qu'au village, on a un city park. Donc, j'y passe des bons moments.
Et tu disais qu'il manquait des choses, quand même, dans le village. Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manquerait pour que tout... Pour que tu sois vraiment bien.
C'est vrai qu'à Saint-Hilaire, il y a pas énormément d'activités pour les jeunes. Il y a beaucoup des randonnées ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'à notre âge...
C'est pour les vieux, les randonnées, c'est ça ?
C'est pas ce que je veux dire.
Ouais,
tu ne trouves pas vraiment ton compte ou...
C'est ça, moi, les randonnées, ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais plus un, quelque chose pour rassembler les jeunes, ce serait vraiment cool.
Comme quoi ?
Un pump track, par exemple.
Alors, on passe une petite annonce pour le maire de Saint-Hilaire-du-Rosier. si vous nous écoutez, les jeunes aimeraient bien un pump track.
C'est quoi un pump track ?
Un pump track, c'est comme un skatepark. En fait, c'est on va dire une route goudronnée qui est accessible par les vélos, les trottinettes et les skates. Et c'est une route goudronnée avec des bosses.
Ok.
Anaïs, toi, est-ce que tu as une impression de ce que ramènent les jeunes de la MFR ? Qu'est-ce qui leur manque ? Qu'est-ce qui est compliqué pour eux dans le fait de vivre ? Encore Saint-Hilaire, c'est un village, mais j'imagine qu'il y en a qui vivent dans des endroits un peu plus reculés, des fermes peut-être plus isolées. Qu'est-ce qui leur manque ?
Ouais, je pense que, du coup, peut-être un peu, parfois, l'ouverture d'esprit et aller voir aussi un peu plus loin que leur village. Et du coup, bah, l'école, on se donne aussi ce rôle-là de les emmener un peu plus loin. Et à la MFR, la volonté du conseil d'administration, c'est que chaque niveau de classe ait un voyage scolaire, partir, découvrir. Et les MFR sont motrices de ce côté-là pour ouvrir les jeunes. Donc voilà, on est engagés là-dedans.
Vous voulez peut-être compléter ? Il y a des choses que vous avez entendues dans vos ateliers sur cette question de difficulté, peut-être ?
Mais je crois qu'avec Éléonore, on vient tous les deux de ruralité dans nos enfances. Enfin, moi, en Bretagne... Éléonore dans l'Ain. Donc, il y a la Bretagne, c'est, ben, pour moi en tout cas, c'est aussi une autre génération, mais c'est vrai que les distances font que bah, pour se rejoindre avec des copains, d'un coup, quand t'as pas de moto ou de scooter, ou t'as un vélo, mais il y a des fois des distances où tu te dis, voilà, j'ai passé une demi-journée pour y aller, une demi-journée. Enfin, c'est pas non plus évident parce que le transport, c'est un frein. Faut se le dire, c'est pas évident. Et du coup, quand on est ado, on est à demi autonome, on dépend des parents de nous emmener, de venir nous chercher. C'est vrai que ça, j'ai pas l'impression que ça. Enfin, moi, c'était la même chose à mon époque. Mais c'est vrai que moi, ce que j'avais comme retour aussi, que c'était que par rapport à la Bretagne, c'est que c'est quand même beaucoup plus vallonné que la Bretagne ici. On est d'accord sur le voilà. Et que la montagne est quand même un frein. Au déplacement. Donc nous, on la voit comme de la nature magnifique et comme quelque chose qu'il faut préserver. Mais pour des jeunes de 15 ans, la montagne et d'être libre dedans, c'est pas évident non plus, quoi. Parce que je crois qu'il y a des distances, des choses qui, enfin, on peut pas traverser une montagne, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, j'ai un peu l'impression de ça. Je sais pas toi.
Ouais, totalement. Moi, j'ai grandi donc dans un petit village aussi, mais en plus à 3 km du bourg, donc je pouvais même pas rejoindre mes potes au skatepark qui, eux, je savais se retrouver le week-end et tout. Donc j'ai eu la frustration dès le primaire et le collège, surtout le collège. Donc oui, c'est un vrai sujet, c'est super important. Et je me dis quelque part en rencontrant ces jeunes que l'internat est aussi quelque chose de chouette pour ça parce que vous vivez une expérience humaine forte en fait où vous partagez des vraies choses dans le quotidien et je me dis que c'est chouette. Moi j'ai eu du coup une adolescence quand même plutôt solitaire à part les moments de collège mais avec peu de possibilités de voir mes potes en dehors, etc. Donc, je me dis que quelque part, c'est une chance, même si, évidemment, du coup, il y a un enjeu à quand même sortir de la MFR le plus possible pour pas non plus rester dans un entre-soi, quoi. Mais voilà. Et puis, je pensais à votre texte et je me disais, bah, à côté de ça, il y a le besoin de vivre aux côtés des vaches. Enfin, moi, j'aime bien cette phrase. Il y a le soleil sur ma peau. Il y a une expérience sensible quand même qu'offre la ruralité, qui est une chance, je pense, par rapport à des urbains qui n'entendent peut-être pas autant le chant des oiseaux et peuvent peut-être pas faire des siestes dans l'herbe, quoi.
Complètement. Le rapport à la nature dans le texte, il est omniprésent. Moi, j'habite à Grenoble, et c'est vrai que je travaille aussi avec des jeunes à Grenoble. On n'a pas le même rapport dans les textes à la nature. Effectivement, quand de le soleil sur ma peau, cette chose-là, il y a quand même des choses qui ressentent et qui voient plus intensément et plus forcément. Mais après, je sais pas, moi j'avais aussi un truc à dire là-dessus, c'est que je pense que vous êtes aussi plus connecté au monde qu'à une époque, dans le sens où les réseaux internet, que vous avez à disposition chez vous, fait que vous êtes connecté au monde beaucoup plus facilement qu'il y a 20 ans. T'as un portable qui a accès à internet, et maintenant on va dire qu'il y a un peu globalement la 4G ou un peu partout, et c'est vrai que t'as pas l'impression de vivre dans un monde comme que tu comprends, quoi. T'étais quand même connecté, j'imagine.
Oui, on se sent pas si seul que ça, parce que finalement on retrouve quand même du monde sur les réseaux sociaux, même des amis, finalement on leur parle par message, tout ça.
Mais et du coup tu dirais pas que c'est un par exemple le fait d'être plutôt dans sa chambre à être connecté, c'est pas un frein de sortir de chez soi, du coup c'est pas une facilité d'être dans sa chambre connecté au monde et pas justement être à la gare ou d'aller convaincre le maire d'essayer de faire un pump-track.
En fait, je dirais pas que c'est un frein, parce qu'il y a quand même quelques avantages. Par exemple, pour des amis qui habitent loin, qu'on peut pas voir souvent, finalement les réseaux ça nous rapproche vachement, on peut parler plus souvent. Et après, c'est vrai que pour les personnes qui habitent plus proches, c'est mieux de les voir en vrai, parce qu'on partage plus de bons moments, tout ça.
Dans votre production sonore, j'entendais aussi effectivement la présence de la nature, la présence des vaches, tout ça. Ça me faisait le lien avec cette question aussi de qu'est-ce que tu aimes dans le fait de vivre à la campagne. On disait d'être proche de la nature, mais est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent et où tu te dis, moi, j'aimerais pas échanger contre une vie en ville?
Alors franchement, je préfère la campagne. C'est calme. On n'a pas ce bruit en permanence de voitures, de trains. C'est calme toute la journée. On est apaisé. On n'a pas de bruit qui nous dérange.
Tu penses qu'on est moins stressé à la campagne qu'à la ville?
Je pense.
Il y a aussi autre chose que j'ai entendu dans votre réalisation, c'est la question de l'orientation stressante. Alors, Anaïs, les jeunes sont stressés par ce qu'ils vont faire, les jeunes qui sont à la MFR, qui sont donc soit en hôtellerie, service restauration, soit en travail agricole, c'est ça les filières?
Alors, en fait, en 4e, 3e, le but, c'est des classes d'orientation, donc ils font des stages dans les domaines qu'ils veulent. Donc, on a des élèves qui sont en stage en coiffure, on en a en restauration, on en a en boulangerie, paysagiste, en agriculture et dans les métiers du bâtiment.
Mécanique aussi.
Dans tous les domaines, en fait. Donc,
Et alors, la place de cette orientation, le fait de devoir se projeter dans un monde adulte qui côtoie donc quand ils sont en stage, là, moi, j'ai entendu que c'était stressant pour vous.
Pour certains, oui, c'est stressant parce que ils sont jeunes aussi, donc il faut faire des choix à la fin de la troisième. Alors après, on essaie de les faire relativiser aussi parce que c'est un choix pour 2 ans, 3 ans, selon s'ils vont faire un CAP ou un bac pro, mais c'est un choix quand même. Et faire un choix, ça peut être stressant quand on n'a pas d'idée de quel choix faire. Les stages permettent justement d'affiner ces choix, et plus on avance dans l'année, plus le stress disparaît finalement, en fait, parce que ils ont trouvé leur voie.
Est-ce qu'il y en a, on l'entend pas là, mais il y en a qui savent pas.
Oui.
Je sais pas. Et oui. On voit bien que ça l'interroge de pas savoir, parce qu'il y en a qui, c'est tracé pour eux, quoi. Moi c'est la boucherie, ça me plaît, je vais là-dedans, je vais être boucher. C'est simple, je vais là. Il y en a, c'est plus compliqué, c'est plus. Ouais, c'est, je sais pas, en même temps ça me stresse, en même temps tu te demandes, mais t'aurais envie de faire quoi? Je sais pas. Et du coup, il y a cette interrogation-là, effectivement, dans un choix. C'est pour ça que c'est stressant, dans le sens que pour certains, il y a ce truc de faut que je m'oriente dans un domaine qui va peut-être conditionner un peu, les deux ou trois prochaines années de ma vie, peut-être. Donc, du coup, c'est pas non plus évident.
Moi, j'allais dire, ça me rassure quand je les entends dire, je sais pas, en troisième, ouais. Et de justement de pas être trop dans un chemin tout tracé, mais de se laisser encore des portes ouvertes. Et c'est ouais, voilà. Et c'est vraiment une richesse de qu'offre la MFR de pouvoir tester autant de milieux professionnels.
Oui, parce que et puis on leur a dit de nombreuses fois, restez curieux et soyez curieux. Ça, c'est clair. Et par exemple, on a échangé avec eux sur les métiers du spectacle vivant, par exemple, parce que c'est effectivement des métiers dont on parle peut-être pas souvent à la MFR, mais c'est des métiers où il y a plein de choses dans le spectacle vivant, que ça soit de technicien à son, lumière, à chargé de production, de communication, à comédien, metteur en scène. Mais il y a plein de métiers à l'intérieur du spectacle vivant, du cinéma, de choses qui peuvent être hyper intéressantes pour des gens aussi très manuels.
Voilà. Et c'est vrai que cette question de l'orientation, elle inquiète tous les adolescents et adolescentes et leurs parents. Et ça, c'est un peu commun à quel que soit le parcours. C'est propre à l'adolescence. Mais j'ai l'impression qu'en milieu rural, et c'est un peu des choses que j'ai entendues par ailleurs, il y a la question de l'ouverture, dont on a parlé plusieurs fois, mais de l'ouverture d'autres horizons qui est vraiment spécifique à la question de la ruralité. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'en milieu urbain, il va y avoir plus d'ouverture parce qu'il y a plus de corps de métier qui sont représentés ou ce genre de choses. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est des choses que j'ai déjà entendues, quoi.
Je pense que quand plus on a la possibilité de rencontrer des gens différents, plus ça ouvre des opportunités, plus on agrandit, enfin on élargit aussi nos représentations du milieu professionnel. Donc oui, forcément, je pense qu'il y a une influence énorme sur les choix professionnels.
Ouais.
Mais la vie est longue et les rencontres, on en fait tout au long de sa vie. Et heureusement.
Bien sûr. Mais c'est vrai que quand tu les entends parler des différents métiers qu'ils voient, parce qu'il y en a qui vraiment voient un panel de choses hyper intéressantes. Enfin, ils sont pas que. Enfin, il y en a qui va faire un stage mécanique, un mois après, il va faire un stage de paysagiste, encore un mois après de fromagerie. Donc, du coup, ils découvrent quand même pas mal de choses. C'est hyper intéressant. Et ils connaissent plein de choses, en fait. Enfin, il y a plein de choses de savoir-faire, de choses qu'ils apprennent et qu'ils connaissent. Ouais. Et en plus de ça, il y en a qui aussi travaillent à Grenoble. Sont en ville et en même temps vivent en ruralité, mais travaillent à Grenoble.
Oui, qu'est-ce qui rapporte les jeunes, Anaïs, qui travaillent à Grenoble ou Axel, tes copains, copines qui sont à Grenoble, qu'est-ce qu'ils en pensent de est-ce que c'est compliqué de débarquer à la ville quand on vient d'un village du coin ici? Comment ça se passe?
Après, moi, c'est vrai que j'ai un ami justement qui a fait un stage chez Yamaha à Grenoble. Et oui, tout à fait. Et il n'était pas habitué au début parce que c'est vrai qu'habiter en milieu rural, ça change vraiment de la ville. Il n'y a pas autant d'informations. C'est vrai que quand on marche dans la rue, par exemple à Grenoble, il y a beaucoup de choses qui se passent comparé à là, ici, en milieu rural. On va beaucoup moins avoir de. On va dire qu'il y a peut-être moins de voitures qui passent aussi. Il n'y a pas de tram, il n'y a pas tout ça. Donc on fait attention à moins de choses qu'en ville.
Oui, puis il y a d'autres contraintes, ils ont d'autres, un autre fonctionnement, mais du coup, c'est une richesse qu'ils se rencontrent et qu'ils échangent là-dessus. Et c'est ce sur quoi on insiste aussi parce que. On leur fait échanger sur leur vécu de stage et du coup, ils savent ce que font les autres et ils peuvent dire dans un même métier, mais dans une autre ville, et du coup, les choses sont différentes.
Et il y a d'autres choses qu'on entend dans votre création sonore, c'est j'ai entendu insultes, rumeurs et physiques. On en a un peu parlé, hein. C'est aussi pour ça que vous avez fait des groupes peut-être non mixtes pour ce projet. Je me demandais si c'était quelque chose que tu vivais très fort, toi, Axel, à la MFR, la question des insultes et des rumeurs, notamment sur le physique.
Alors, les rumeurs, pas tellement. Par contre, les insultes, c'est vrai qu'il y en a, on va dire, quotidiennement. Mais on essaye quand même de rester beaucoup dans le vivre ensemble parce qu'on passe l'année ensemble. on dort ensemble à l'internat, donc on essaye quand même de rester assez, on va dire, fusionnel.
J'allais dire, ouais, en tant qu'intervenante extérieure, on a effectivement vu le côté, voilà, un peu
viril,
exactement, de surtout des groupes de garçons. Mais on a aussi vu beaucoup de tendresse entre vous et ouais. d'encouragement, de soutien quand... Et pour certains, c'était pas facile de prendre la parole. On l'entend au début. J'espère qu'on le sent un petit peu dans la création, qu'il y a beaucoup d'encouragement et même voilà, d'assumer qu'on est stressé, d'assumer que c'est pas facile, mais que les potes sont là pour soutenir et encourager. Et ça existe aussi chez vous. Et je pense qu'il faut vraiment cultiver ça parce que c'est très beau.
Ouais, on a été surpris de ça, de l'encouragement, comme tu dis, de vivre ensemble, qu'il y avait entre vous, qui était vraiment beau à des moments donnés. On se dit, ah ouais, c'est super. Ils s'encouragent, ils sont là, allez, il n'y a pas de dire, vas-y, tu n'y arrives pas, t'es nul. Non, non, c'était vraiment de s'encourager. Donc ça, c'était chouette. Et moi, c'est vrai que ça fait 3 ans que je bosse à la MFR. Et je trouvais que les groupes étaient beaucoup moins, effectivement, enfin, même si tu ressens des insultes, moi, j'ai vécu des groupes vraiment beaucoup plus compliqués que ce que j'ai rencontré là. Et même beaucoup plus dans un racisme hyper ouvert. Donc dans la manière d'aborder les choses, trucs comme ça, où j'avais des réflexions, des moments où je disais, oh là là, top, faut qu'on en cause. Et là, pas du tout. J'ai absolument pas senti ça dans vos groupes, ou beaucoup plus d'ouverture et de curiosité, et pas du tout, effectivement, de... Moi, je l'ai vécu à la MFR, hein, vraiment des vrais moments de racisme ouvert. Voilà.
Alors oui...
Entre eux,
De racisme, de sexisme, qui sont les discriminations qui traversent, d'homophobie aussi, ouais. Qui traversent notre société, qui traversent aussi les groupes de jeunes. Oui. Ça me fait penser à un documentaire de Alice Diop, pour celles et ceux qui la connaissent, qui est une réalisatrice noire, et qui a réalisé un petit court-métrage qui s'appelle « Vers la tendresse », justement sur comment être tendre entre jeunes adolescents. Alors là, ça se passe dans des quartiers populaires, en ville. Mais elle pose cette question-là, c'est quoi la tendresse pour ces jeunes, tu connais ?
Magnifique film qu'il faut voir absolument. Ouais, je suis voilà.
On vous recommande avec Éléonore Vers la tendresse. Ça me fait penser à ça. Et ouais, donc sur cette question du racisme et des discriminations, c'est pour ça que je l'ai un peu relevé sur la question des insultes. Est-ce que, je ne sais pas, toi Anaïs, qui a 10 ans d'expérience dans la MFR et puis qui a un autre parcours professionnel aussi avant, est-ce que tu as observé une évolution ? Comment ça se passe dans les groupes d'élèves que tu as connus par le passé et aujourd'hui ?
Je trouve qu'aujourd'hui, en fait, c'est leur manière de se dire bonjour, de s'insulter. Et ça devient banal. Alors, ça me fait mal au cœur de dire ça, parce que pour moi, c'est pas banal, mais voilà, et on se dit pas bonjour comme ça. Et du coup, on essaye d'insister sur la bienveillance et tout ce qui peut avoir de rapport humain qui seraient normaux, on va dire. Mais malheureusement, la normalité, je trouve qu'elle bascule de plus en plus vers, justement, ce mode de communication-là. Parce que quand on leur fait remarquer, mais c'est pas méchant, en fait. Mais si, en fait, c'est méchant de s'insulter. Et voilà, on essaie d'insister là-dessus, parce que je trouve que le mode de communication des jeunes est en train d'évoluer là-dessus, Et c'est dommage.
Et particulièrement sur les questions discriminantes, on a parlé du physique, mais sur les questions de racisme, comme disait Bastien ?
Non, pas forcément. Pas forcément là-dessus, non. Non, non. Non, mais c'est leur mode de communication. Et c'est ça qui est questionnant.
Et ça me fait enchaîner sur un autre sujet dont on a parlé avec Laura quand on a préparé un peu ce plateau, où elle me parlait de la santé mentale. Et notamment de la santé mentale des jeunes en milieu rural. Il y a des études aussi. Hein. Alors, globalement, la question de la santé mentale chez les adolescents et adolescentes, c'est compliqué. En tout cas, depuis le Covid, voire même avant, on assiste quand même à quelque chose d'assez compliqué, voire inquiétant, préoccupant pour les adultes, pour les adultes autour de ces jeunes, les parents, les éducateurs, éducatrices, les enseignants. Et effectivement, c'est prégnant. Et moi, je me demandais, à la MFR, est-ce qu'il y avait quelque chose qui était mis en place sur la question de l'écoute, sur la question de pouvoir parler des émotions, sur tout ça ?
Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu automatique. Moi, j'ai dormi plusieurs nuits à la MFR, et ils sont forcément dans la confidence. Les enseignants, forcément, vous avez un côté où le soir, enfin c'est le soir que ça se passe, après manger, des vrais moments auxquels j'ai assisté où ça parle de l'intime et de l'intimité, et les profs, enfin les formateurs, sont là, sont vraiment là, quoi. Enfin, il y a une vraie part d'écoute où vous connaissez leur vie, leurs problématiques. Enfin, ils se confient à vous. Enfin, il y a une vraie. J'ai l'impression que tout le monde y passe un peu. Enfin, où vous avez un œil sur celui ou celle qui va rentrer dans un mutisme ou qui va. J'ai l'impression que vous avez l'œil là-dessus. Enfin, je peux me tromper, oui, Annex,
Et c'est une chance qu'on a, moi, je trouve. Alors, on peut se dire, oui, on travaille jusqu'à 22 heures, on est avec les jeunes jusqu'à 22 heures. Alors, ça fait des journées aussi qui sont intenses, etc. Mais n'empêche que ces moments-là, pour moi, ils sont hyper importants parce que c'est des moments où, justement, les jeunes, ils se confient, ils sont dans une autre. Enfin, voilà. Et on peut échanger et ils sortent des choses. Qu'ils ont besoin de sortir. Et puis, on travaille aussi avec sur l'estime de soi. On a un projet avec la MSA et on travaille sur l'estime de soi et dès la quatrième et qui est importante. D'ailleurs, tu as participé, il me semble, Axel, l'année dernière. Voilà. Et on a aussi une association de Saint-Marcelin qui vient chaque jeudi. J'ai oublié le nom, mais écoute pour tous. Voilà.
Alors, il y a ça, il y a le bus santé oui. Que peut-être les habitants et habitantes de Saint-Marcelin-Vercors-Isère Communauté connaissent, qui est un bus mobile qui va justement à la rencontre des adolescents et adolescentes.
Là, il est venu à la MFR cette année. Chaque année, il vient à la MFR.
De 11 à 30 ans, avec une psychologue, une travailleuse sociale qui permet des rendez-vous anonymes et gratuits pour les jeunes. Donc, on sent qu'il y a une réelle préoccupation politique aussi, du côté de la communauté de communes, de mettre ça en place. Et ce n'est pas le cas de toutes les Comcom et ce n'est pas le cas de toutes les collectivités. Oui. Donc, on voit qu'il y a une préoccupation de ça. Oui. Il s'était passé quoi dans ce projet, Axel, tu te rappelles, sur l'estime de soi? Ça pique ma curiosité.
On a eu une intervenante qui est venue, du coup, pour parler, on va dire, de nos problèmes. Si on se sentait bien, si on avait des petits problèmes, sur quoi on voulait parler, par exemple, si on se sentait mal sur un point précis. Et franchement, c'était vraiment important. Ça fait du bien d'avoir ce genre d'intervention.
Tant mieux. On arrive doucement à la fin de notre plateau radio. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées sur ce projet avant de vous questionner, vous, cher public, sur le titre qu'on pourrait donner à cette pièce sonore? Comme ça, je vous laisse, vous voyez, c'est une manière de vous commencer à réfléchir. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas passées en revue ou alors on a parlé de tout?
On a parlé de pas mal de choses, déjà. Non, je trouve que... Enfin, je ne sais pas ce que... Enfin, on pourra s'en causer après, mais... je trouve ce qu'on a fait sur ces 8 minutes là de ce making in, making off, je trouve que moi j'ai vraiment l'habitude de faire de l'atelier, de vraiment faire de la mise en scène ou de l'atelier avec beaucoup de jeunes, de plein, mais il c'est un chouette docu-fiction autour de ce qui se passe à l'intérieur d'une rencontre artistique avec des jeunes. En tout cas, j'ai l'impression qu'il n'est pas lié à une région ou un département. Je crois que tu le fais écouter à Dijon. Il aurait des accointances et de l'écho avec des jeunes de Bourgogne. Enfin, je prends la Bourgogne.
Il y a aussi des bruits de moteur et de moto.
Ouais. Et tous les bruits de moteur sont faits à la bouche. C'est vrai, à la canette. C'est vraiment du bruitage fait maison.
Je voulais dire que je suis assez fan de ce texte et je salue le travail d'Aurélie sur l'écriture parce que vraiment le résultat est très qualitatif, très beau, à la fois très représentatif de ce qu'ils sont d'une génération et d'une génération en milieu rural, etc. Mais sans cliché, je pense que moi ce qui me frappe dans ce texte, c'est qu'on sent... La particularité sensible de vivre en milieu rural, mais on sent aussi l'influence d'une culture urbaine et donc une sorte de double culture qui est très riche en fait. Et ce texte est très pertinent pour raconter ça aussi, quoi, que vivre en milieu rural, c'est pas juste vivre au milieu des vaches, c'est aussi la pose des fossiles, quoi. Et du coup, je trouve ça très chouette dans ce texte.
Ça donne envie qu'il y ait une petite édition de ce texte.
Mais carrément, ouais.
Parce que là, on a la version sonore, on pourrait avoir une belle version poétique éditée, non?
Oui, oui, bien sûr. Il faudrait que.
Voilà, on lance la recherche d'un nouveau financement.
Et aussi, on a beaucoup ri. Enfin, il y a vraiment eu des Axel grandes tranches de rigolade vraiment fortes, quoi. Donc ça, c'était, enfin, vraiment quand moi je me suis dit bon, ça va, ils ont de l'humour, ils se marrent. Vraiment, c'était, enfin, dans tout, même quand on était concentré à enregistrer, c'était, il y avait des vrais moments drôles. Quand il dit Sophie en Y au Vélodrome, enfin, je sais pas si vous vous rappelez de ce.
Ah oui, alors moi j'ai pas compris.
Il y a quelques private jokes.
Ouais, ouais, voilà, il y a des trucs, faut les sous-titres.
En fait, il y a un des jeunes qui nous dit que sa grand-mère est instagrammeuse.
TikTokeuse.
Sa grand-mère est TikTokeuse et qui fait des TikTok. Et il y en a un qui écrit le nom de la grand-mère de, donc, et il dit Sophie en Y devant le Vélodrome. C'est ça, hein, je crois, en I devant le Vélodrome. Et on l'entend dire c'est ma mamie. C'est qu'il découvre sur le texte qu'il parle de sa mamie. Voilà. Et donc ça, on l'a eu en direct, on l'a refait. Et la Doro partie à Châtelet, alors ça, on peut vous expliquer ce truc-là, c'est qu'ils nous ont eu là-dessus. C'est qu'il y en a un qui a écrit ça à un moment donné, et puis on demande avec Eleonore, c'est quoi la Doro partie à Châtelet? Et on nous dit, ouais, mais c'est des batailles d'oreillers entre jeunes. Bon, moi, bêtement et naïvement, je crois. Eleonore va vérifier sur Internet ce que c'est la Doro partie à Châtelet. Et elle vient voir, elle me dit, bon, faut qu'on parle. C'est pas du tout ça, la Doro partie à Châtelet. Donc, c'est des soirées libertines. Voilà. Donc, on se retrouve après la pause. Il dit, bon,
qu'est-ce qu'on fait
avec la Doro partie à Châtelet? Parce que c'est pas une soirée. Donc là, ils étaient tous en train de regarder leur pompe en disant, oui, non, mais c'est... Là, donc, je dis, on le met, on le met pas. Enfin, il y a un moment donné... Et puis, c'est bête de nous mentir. C'était chouette, de celui qui l'a écrit, il l'assume, quoi. Donc on se dit, bon, bah, on va les jouer. C'est pour ça qu'après, quand il y en a un qui fait Doro partie à Châtelet, on les entend faire... voilà, mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, il y a eu quelques petits moments où ils disent, bon, qu'on soit francs entre nous, qui était drôle, ouais.
Voilà, on a l'envers du décor.
Voilà.
Et avant de clôturer ce plateau, est-ce que vous avez des idées de titres pour cette pièce qui n'a pas encore de titre? C'est quand même, on va essayer de trouver un titre avant la fin. Allez, fais appel à votre poésie. Ah, oui. Il y a un titre vers la fin. Oui. Les adolescents vous parlent.
Ok.
Ok, on note. Les bruits de la pensée, c'est ça? Les bruits de la pensée. Très
les
poétique.
Bruits,
ouais, okay. Ouais. Les adolescents de la MFR, ok.
Ouais.
Je ressens tout. C'est vrai que ça apparaît à un moment, c'est très beau ça. Je ressens tout, très poétique.
C'est Axel qui le dit en plus.
Ah, c'était la voix d'Axel. D'autres idées de titres?
Je ressens tout.
Vroom vroom.
Vroom.
Il n'y a pas une chanson, il y a déjà une musique, non, qui savait, qui fait ça, je pense. Alors, le plateau est terminé, mais la soirée n'est pas terminée. Juste le temps de terminer ce plateau, de le débarrasser. Il va y avoir la lecture d'un ou d'une lauréate du prix de la nouvelle organisé donc par le réseau des médiathèques de Saint-Marcelin-Vercors-Isère Communauté. C'est pas moi qui m'en occupe, mais quelqu'un hoche la tête dans le fond, donc je ne dis pas n'importe quoi. Et après ça, donc ça va durer voilà, un petit moment. Et après ça, et ben, y aura la lecture théâtralisée d'Aurélie Olivier qui vient d'arriver avec le duo Archer qui donc met en théâtre et en scène un duo de cordes et de femmes libres qui propose l'exploration d'un son nu, d'une musique riche, des contraintes et des opportunités offertes par le violon alto et le violoncelle. C'est pas moi qui le dis. Et donc pour accompagner la lecture du deuxième ouvrage d'Aurélie Olivier, Cordon tombe, qui parle de complètement autre chose. Et cette résidence n'est pas terminée puisque demain soir se passe la soirée de clôture de cette résidence. Ça commence à 17h au poulailler. Le poulailler, c'est le hangar avec des artisans et artisanes qui est à Saint-Just-de-Clé, avec tout plein de choses, notamment une autre table ronde animée par La Bouillotte, les libraires de La Bouillotte, la librairie de Saint-Jean-en-Royans, avec notamment Wendy Delorme, Laurine Tizi et donc Aurélie Olivier. Et après ça, il y aura l'ensemble des participants, participantes aux ateliers d'Aurélie qui vont lire leur texte, et puis d'autres personnes qui n'ont pas participé aux ateliers, mais qui liront leur texte. C'est un open mic, comme on dit dans le milieu. Et ensuite, des performances littéraires de 19h30 à 21h30. Et une bonne fête avec un DJ set inclusif. Ça va être une belle soirée, très festive, pour terminer cette résidence. Donc, on espère qu'il y aura aussi du monde.
Ah ouais, venez, ça va être bien.
Ça va être très sympa. Et merci à tous les invités.
Merci à merci. Vous.
Et merci à Loën pour la technique, et Charlène. Et on continue.